Laure Adler sur France Inter.
Ce soir, dans l'heure bleue, Philippe Val pour Cacher cette identité que je ne saurais voir et Yves Michaud pour Citoyenneté et Loyauté sont nos invités. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et c'est difficile de commencer en musique devant un musicien, auteur, interprète. Je veux parler de Philippe Val. Alors pour lui faire plaisir, mais aussi pour nous faire plaisir, nous avons choisi Neil Young, Xiaomi.
Do you see people being led by the righteous hand? Taking care of everyone like they were on a piece of land. Show me. Show me. Show me. Lives being lost on the sacred land. In the battle over water being fought for the baby's hand. Show me. Stand up for themselves, and the promises made stop gathering dust on the shelves. Show me. Show me. Show me. You have to say, I know how you feel, 'cause that's what made me this way. When heaven on earth is improved by the hand of man, and people everywhere get together and join their hands. Show me. Show me. Show me. Show me.
Philippe Val, vous êtes artiste, auteur, interprète, je le rappelais tout à l'heure, vous êtes auteur, vous avez dirigé un journal qui s'appelle Charlie Hebdo, vous avez publié plusieurs livres, Traité de savoir survivre par temps obscur, Revient Voltaire, ils sont devenus fous, Malaise dans l'inculture, C'était Charlie, et vous sortez ces jours-ci cacher cette identité que je ne saurais voir. Vous avez été aussi directeur de cette station de radio France Inter et manifestement pas mal aimé, si j'en juge par les collaborateurs et collaboratrices qui sont venus vous rejoindre dans ce studio et qui ont même apporté une bouteille de champagne. Quant à vous, Yves Michaud, vous êtes philosophe. On vous a connu pour un livre intitulé « La violence ». C'était en 1973 aux éditions des Presses universitaires de France. Depuis, vous avez consacré au moins 6 livres à la violence. La violence, le changement dans la violence apprivoisée, violence et politique. Vous êtes un drôle de type, un inventif dans la culture, puisque vous avez créé il y a maintenant, je crois, une bonne vingtaine d'années, l'Université de tous les savoirs, décloisonnant toutes les disciplines et permettant à toutes celles et ceux qui voulaient apprendre des choses dans les différents domaines, y compris les plus difficiles comme l'astronomie, la physique, les mathématiques, de venir à des cours du soir. Vous avez publié un livre absolument incroyable sur Ibiza et sa fête permanente. Et vous avez publié, il y a très peu de temps, un livre intitulé « Contre la bienveillance » et ces jours-ci sort « Citoyenneté et loyauté » qui continue en quelque sorte ce que vous aviez écrit dans ce livre un peu pamphlétaire « Contre la bienveillance ». Je ne sais pas si tous les deux vous serez d'accord sur toutes les thématiques que vous abordez dans vos ouvrages respectifs, mais en tout cas, vous partagez déjà un premier constat, c'est que nous sommes en crise. Alors, quelle crise ? Crise d'identité, crise religieuse, crise de la démocratie, crise de la représentativité. De quel type de crise s'agit-il ? Je vous pose la question à tous les deux. Philippe Val.
Yves Michaud parle d'une crise de la citoyenneté. Je pense qu'elle est très visible et c'est très juste. Je pense par ailleurs qu'on a une crise d'identité très forte, mais le mot identité fait peur. Alors peut-être que c'est une crise culturelle. Les gens, peut-être, la société civique a perdu quelque chose d'essentiel dans sa culture. Et peut-être a perdu aussi l'amour qu'il faut lui porter pour qu'elle puisse se projeter dans l'avenir. Et je pense que cette crise culturelle, on est en train de la payer très très cher. Et voilà, il faudrait trouver.
Vous pensez que cette crise, elle s'inscrit particulièrement dans le champ de la culture ?
Oui.
Moi, la différence, c'est que je partage le diagnostic de Val, mais je le formule différemment. Pour moi, c'est une crise de la culture politique, en fait. Pour moi, la crise est de nature politique. C'est une crise de la communauté républicaine. Hein. C'est même pas une crise de la démocratie, parce que la démocratie, ça vient après la fondation de la communauté. Mais les fondamentaux de notre communauté, ils sont ébranlés. Hein. Ils sont ébranlés. Du point de vue de nos problèmes d'identité, mais ils sont ébranlés par le terrorisme, ils sont ébranlés par les crises des migrants, ils sont ébranlés par les populismes. Pour moi, c'est ça la crise. Vous avez dit que j'avais écrit des choses sur la violence. En fait, je poursuis le même travail. Mon livre « Violence et politique » de 78 se terminait en disant « En fond, la violence, c'est quand il n'y a pas de contrat social. » Et j'essaye de voir, de proposer... Très concrètement, c'est pour ça que le citoyenneté et loyauté, c'est une suite, en fait, de contre la bienveillance. J'essaye de proposer, je dirais, au fond, les conditions d'un nouveau contrat social. Parce que c'est bien joli, on pleurniche, on dit, bon, c'est la crise, tout va mal, tout s'effondre. Et effectivement, la situation, je trouve, est gravissime actuellement. Mais on fait quoi? Je veux dire, à une fois. Donc, je suis d'accord avec Val sur la notion de crise culturelle, mais moi, c'est plutôt une crise culturelle politique, si vous voulez, profondément politique.
Philippe Val.
Il est difficile quand on a... L'identité, c'est quelque chose de très bizarre. C'est un mot qui est chargé de névrose, parce que ça veut dire à la fois pareil et différent. J'ai mon identité, alors foutez-moi la paix. Et puis, l'identité, c'est aussi ce qu'on partage. Donc, c'est un mot compliqué. Les choses que l'on ne partage pas et qui sont extrêmement précieuses, c'est ce qui fait notre manière de conduire notre vie privée, notre vie sexuelle. Tout ça, c'est une identité et c'est à chacun de voir. C'est dans l'opacité démocratique. Il faut que la démocratie nous laisse une opacité. Et c'est une part extrêmement précieuse de notre identité, cette part secrète, cette part personnelle. Après, dans l'identité commune, il y a ce que nous avons dans notre mémoire commune, que nous devons avoir dans notre mémoire commune, et qui doit nous servir à penser le présent et à nous projeter un petit peu dans l'avenir pour les générations qui viennent. Or, si on ne sait pas d'où on vient, et ce n'est pas une question ethnique, ça n'est pas une question religieuse, nous venons vraiment d'une histoire absolument incroyable, une histoire de bout du monde. L'Europe de l'Ouest, pendant des siècles, a été le bout du monde. Il n'y avait rien après l'Europe de l'Ouest. Il y avait une étendue de flotte qu'on appelle l'océan. Et même maintenant, d'ailleurs, on voit bien que les gens s'entassent encore vers l'Europe de l'Ouest, bien que les États-Unis, l'Amérique, a été découvert entre-temps. Et tous ces gens qui fuyaient des persécutions, religieuses ou politiques, venaient vers l'Ouest, vers l'Europe. Et ces exclus, ces bâtards, ces juifs notamment, ils étaient les seuls à pouvoir penser des droits universels, à penser des droits pour d'autres qui sont différents d'eux. C'est l'histoire des Maranes et c'est l'histoire de tous ces gens qui ont inventé la philosophie des Lumières, une philosophie de l'immanence pour ce qui concerne le droit de chacun. Et ça a mis des siècles. Et aujourd'hui, on a oublié cette histoire de bâtard, cette histoire impure qui a inventé la démocratie moderne, cette démocratie moderne qui nous a garanti 70 ans de paix en Europe, ce qui est une chose absolument unique dans l'histoire de l'humanité. C'est donc un trésor duquel on se détourne de façon inconsidérée et, je pense, très imprudente.
Alors, du maranisme, vous faites un vibrant éloge à l'intérieur de votre dernier livre, Philippe Val, de cette Europe des Lumières. Vous nous rappelez à quel point elle fut importante. Et pourtant, on peut dire que c'est dans cette Europe au XXe siècle qui a été la plus meurtrière. Donc est-ce qu'elle peut continuer à constituer une sorte de modèle d'une démocratie du futur ? Yves Michaud, qu'en pensez-vous ?
Non, alors, je dirais que moi, la caricature qui remonte à l'école de Francfort, des Lumières comme à l'origine du nazisme, moi, la raison instrumentale, je trouve que c'est une grosse blague.
C'est une grosse blague,
très malhonnête par des gens qui n'avaient pas lu les Chants des Lumières.
Absolument.
Les Lumières, d'abord, d'abord, toute l'Europe a été dans les Lumières. Hein. La fin des Lumières, c'est après la Révolution française avec le romantisme, mais tout le monde a été dans les Lumières. Il y a des Lumières modérées, qui sont souvent des conservateurs comme David Hume, les Écossais, par exemple. Et puis il y a des Lumières qui sont plus radicales. Il y a l'influence, et ça c'est très bien dit dans le livre de Val, il y a l'influence omniprésente de Spinoza au XVIIIe siècle, alors que c'est un auteur clandestin, mais qui est remarquablement diffusé partout, et que les gens connaissent très bien, même si on ne le voit pas figurer. Donc arrêtons de dire que la barbarie du XXe siècle, ça vient des Lumières. Non, la barbarie du XXe siècle,
non,
elle vient du totalitarisme.
Je vous dis qu'au XXe siècle, l'Europe a été le terrain de la barbarie. Paris la plus extrême. Ce ne sont pas les Lumières qui en sont la cause, ni l'origine.
C'est la technologie contre les Lumières.
Beaucoup la technologie, beaucoup le refus des Lumières. Quand même, il y a quand même un incroyable obscurantisme, aussi bien dans le nazisme que dans le stalinisme. Hein. Il faut voir la théorie linguistique de Staline, ce que c'est. Hein. Je veux dire, c'est ridicule. Il y a un incroyable obscurantisme, il y a la technologie, et puis il y a les formes totalitaires du pouvoir. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais ça, les formes totalitaires du pouvoir, là, c'est aussi un point sur que je suis d'accord avec Val, elles ne viennent pas de la démocratie.
Bien sûr.
Alors, que vivons-nous aujourd'hui ? D'après vos diagnostics, pour chacun d'entre vous, nous sommes en fin de cycle presque civilisationnel et nous endurons une sorte d'attaque du pacte de loyauté qui nous constitue citoyens d'une même communauté. Donc, comment remédier à cette espèce d'entaille faite à ce pacte ? Vous ne citez pas Jean-Jacques Rousseau, Yves Michaud, dans votre dernier ouvrage, mais il est sans arrêt présent avec l'idée d'un contrat social qui aujourd'hui ne fonctionne plus.
Bah, toute proportion gardée, mes deux livres, là, c'est mon contrat social à moi, hein, je veux dire, avec toute modestie quand même, remise aussi en avant, hein, je veux dire. Mais effectivement, je pense qu'il faut reconstituer les conditions du pacte social, mais elles ne peuvent pas être reconstituées, je dirais, sur la base des identités. C'est le point fondamental. C'est pour ça que j'aime bien le livre de Val, je l'ai lu avec plaisir, mais en même temps, je trouve que cette généalogie d'une identité européenne, elle est très subtile, elle est très compliquée et elle est difficile à faire passer les gens. En revanche, moi, ce que je dis tout bêtement, c'est revenons aux conditions de l'identité politique républicaine qui sont très simples. C'est celle de la Révolution, mais c'est celle aussi qui était dans les doctrines du contrat social. C'est un petit nombre de principes auxquels les gens adhèrent parce qu'ils veulent bénéficier des bienfaits de la communauté. Alors, ce qui se trouve aujourd'hui, c'est mon diagnostic, c'est que aujourd'hui, ça va tellement de soi que la République est là pour nous donner tout ce dont nous avons besoin, l'État-providence, etc., la sécurité, que tout semble tellement prévisible, acquis, donné d'avance, qu'on ne voit même plus pourquoi on est citoyen. Il y a un oubli de la citoyenneté, et c'est ça que je mets en cause. Donc,
ça se mérite, la citoyenneté.
Ça se mérite, exactement, puisqu'on a quand même des droits qui sont considérables.
Et les désaveux de citoyenneté doivent se payer, selon vous.
Ah, tout à fait, ça oui, là je suis catégorique.
Philippe Val.
Oui, pour en finir avec cette histoire de l'Europe qui a atteint le paroxysme de la barbarie, elle l'a fait par détestation des Lumières, et par détestation de l'origine judéo-grecque des Lumières. Judéo-grecque, parce que dès l'Antiquité, il y a une hybridation constante de la raison grecque, du connais-toi toi-même, de l'enseignement de Socrate, et de la pensée juive à Alexandrie, déjà de façon contemporaine au Christ, puisque dès le 1er siècle, Philon d'Alexandrie opère une fusion entre ces deux cultures. Et ça ne cesse de rouler à travers les siècles. Et c'est ce que déteste notamment Hitler. Et ça roule pas simplement avec le christianisme, avec la pensée marane, avec la pensée juive, et puis cette pensée grecque qui ne cesse d'être étudiée d'abord dans les monastères et ensuite chez les clercs, chez les intellectuels. Et à la fin, on se rend compte, vous parlez d'un serment. Il faut un serment de citoyenneté. Moi, je pense qu'il faut effectivement ce serment et que ça doit être un serment d'amour. On doit aimer cette culture-là qui a permis, à travers des siècles vraiment très difficiles, qui a permis quand même l'essor des sciences, d'une peinture sublime, d'une littérature formidable. Enfin, il n'y aurait pas eu, sans cette pensée-là, la littérature picaresque. Il n'y aurait pas eu Don Quichotte. Il n'y aurait pas eu Shakespeare. Et surtout pas cette Bible fondatrice du sujet moderne, que sont les essais de Montaigne. Et cette chose-là, il faut vraiment se les réapproprier si on veut survivre dans ce monde crétin, parce que c'est crétin ce qu'on est en train de vivre. C'est quelque chose qui est bas, qui est une chose, comme vous dites, de consommation. L'État nous doit quelque chose. On en est rendu là. Mais c'est quelque chose d'horrible. On doit être les acteurs de cette démocratie incroyable que le singe humain, qui est un des plus violents des singes, a réussi quand même, en sublimant ses pulsions, à construire. Et ça doit être la chose la plus précieuse que nous devons travailler aujourd'hui et que nous devons enseigner.
Alors, cette crise de la culture que vous stigmatisez, Philippe Val, elle est peut-être très importante et beaucoup plus importante qu'on l'imagine. D'ailleurs, je pense que tous les deux, vous partagez ce diagnostic. Il n'y a plus de grands intellectuels qui s'occupent du cours du monde. Je vous propose d'écouter la voix de Jean-Paul Sartre qui va essayer de définir ce que peut être et peut-être doit être un intellectuel.
De manière générale, l'idée que j'étais un intellectuel et que les intellectuels dans un mouvement ont un rôle bien défini. Genre d'idée qu'en somme, j'ai hérité du Parti communiste. Mmh. Et que j'ai gardé.
Et toute une tradition française.
Et toute une tradition française. Et que j'ai gardé jusqu'après 68. Pas longtemps après 68, mais après 68. L'idée que l'intellectuel était une force d'appoint. Des gens qui éclaircissaient les idées en s'éclaircissant les leurs. Et qui marchaient avec les militants d'un mouvement. Mm-hmm. Et que les intellectuels dont j'étais n'étaient pas obligés d'entrer dans le groupe qui était le plus important dans le mouvement. Ils pouvaient rester en dehors tout en étant solidaires de lui. J'ai jamais eu l'idée d'entrer dans un parti, dans un groupe, et encore moins en créer un.
En revanche, ce que vous avez créé, c'est une revue.
C'est ça.
Nous venons d'entendre la voix de Jean-Paul Sartre dans ce formidable document qu'a réalisé Michel Conta, dont on vient d'entendre la voix. Alors aujourd'hui, qui sont les intellectuels? Où sont les intellectuels? Sartre vient de dire qu'ils n'ont pas besoin de parti, ils doivent donc être libres. Qu'en pensez-vous? Quel est le rôle et le statut des intellectuels que vous êtes, Yves Michaud?
Oh, moi, je me vois pas comme en statut d'intellectuel, ni accompagnant un parti, ni en dehors, etc. J'essaye tout simplement en tant que philosophe d'être un analyste des situations. Je me positionnerai plus du côté de Raymond Aron, mais c'est un point qui nous rapprocherait, là encore, avec Val, du côté de Aron. C'est-à-dire, nous fournissons dans la mesure de nos possibilités, des instruments d'analyse de la société, et les gens en font, je dirais, d'une certaine manière, ce qu'ils veulent. Moi, souvent, on me dit, mais vous ne prenez pas parti. Là, je l'ai pris parti quand même dans ces deux derniers.
Si, là, on va y
prendre pas parti. Ouais. Mais j'ai dit non, je vous ai analysé la situation. Maintenant, à vous, en tant qu'individu, citoyen libre et acteur social, à vous de faire vos choix et d'assumer vos responsabilités.
Donc vous livrez des pistes, vous donnez votre cartographie de l'événement.
Pour moi, c'est le philosophe, c'est un quelqu'un qui analyse les situations, qui les décrit le mieux possible, y compris d'ailleurs en faisant varier les points de vue, les points d'approche. Hein. Et puis, à partir de là, je veux dire, il peut pas plus. Mais l'idée de cet intellectuel qui aurait une vision globale et qui pourrait dire qu'est-ce qu'il est possible de faire. Alors, il y a bien sûr eu des gens fantastiques comme Hegel, comme d'autres, à certaines périodes de l'histoire.
Hegel, que vous citez beaucoup,
mais d'ailleurs. C'est aussi, d'une certaine manière, nous qui les avons constitués en héros de la pensée. On pourrait faire une sorte de contre-histoire en disant que, par exemple, si vous voulez, la place qu'on a donnée à Nietzsche dépend en grande partie, nous, de la manière dont nous l'avons construit, Nietzsche. Parce que quand on regarde les œuvres de Nietzsche, c'est à peu près tout et n'importe quoi. Et, je veux dire, c'est plein de fragments, il y a plein de
livres. Je préfère le tout, n'importe quoi, mais chacun son
Nietzsche. Non, mais c'est vrai, si vous voulez. Écoutez, vous trouvez encore sur le marché un livre de Nietzsche qui s'appelle La volonté de puissance, qui n'a jamais existé.
Qui n'a jamais écrit.
Voilà. Les problèmes d'édition.
Est-ce que vous
de
avez, c'est vous avez en fait des tomes et des tomes, et des tomes de fragments. Voilà.
Ouais.
Ce que je veux dire,
mais
c'est là.
Sartre,
alors Philippe Val.
Moi, je crois au rôle des intellectuels, beaucoup au rôle des philosophes, au rôle des écrivains, au rôle des artistes. Je crois profondément à ça. Et Sartre a fait. C'était un homme d'une intelligence admirable, ça va sans dire, mais il a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de mal, il a opéré un magistère, qui est resté dans une tradition robespierriste et qui est pas ce qu'il y a de mieux dans la Révolution française, du moins ce qu'elle a donné après. Et Sartre a commis des choses qui sont lourdes de conséquences aujourd'hui, notamment la préface aux Damnés de la Terre de Frantz Fanon, dans lequel il fait l'éloge du terrorisme et du terrorisme dont nous souffrons aujourd'hui. Et il a donné une colonne vertébrale intellectuelle.
Il fait pas l'éloge du terrorisme, il fait l'éloge de l'insoumission par rapport à l'ordre établi.
Il a été imprudent. Il a été très imprudent et peut-être un peu démagogique à l'époque. Il aurait dû être plus philosophe.
Il ne pouvait pas anticiper les événements que nous endurons.
Non, mais c'est quand même une préface qui est d'une violence inouïe.
Et puis,
hein. il faut se rappeler,
après,
un homme mort fait un homme vivant, etc.
Voilà.
C'est vraiment
cette
très,
préface
très violent.
Voilà
très
un point encore commun que vous avez ensemble.
Ah, mais on a plus de points. La différence qu'il y a entre nous, c'est que moi, je ne suis pas du tout herméneute. C'est-à-dire que je ne me situe pas dans la longue distance, si vous voulez, de l'interprétation. Je suis plutôt positiviste et empiriste. Donc je dis, maintenant, on fait quoi dans ces circonstances-là? Je ne fais pas le récit des origines. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord avec la plupart des choses que dit Val. Hein.
Moi, je suis d'accord.
On fasse un petit peu de récit des origines, peut-être que nos livres sont complémentaires, parce que ces origines, je pense que si on ne les aime pas...
Vous partez de l'Antiquité grecque pour arriver jusqu'à aujourd'hui, dans votre dernier livre.
Il faut les aimer pour pouvoir faire en sorte que l'histoire continue. Mais je voulais rappeler ça. Je voulais rappeler ces choses-là. Sartre, ailleurs...
Mais je suis d'accord avec vous, si vous voulez. Je les aime aussi, mais ce qui me gêne, c'est que ça reste quand même entre nous. Et que quand on a affaire à la communauté politique,
non, mais
ça reste quand même.
Ça,
votre livre, il sera quand même lu par entre nous, par des gens qui sont aussi des intellectuels et des gens qui sont savants et qui sont intéressés. Non, mais peut-être. Et je dis que peut-être qu'il faut revenir à des choses, à des programmes qui sont plus simples. Je veux dire, c'est pour ça que je parle de programmes de morale, d'enseignement de la morale, de serment,
vous
de
avez
service
raison,
civique, etc.
Mais
c'est-à-dire que entre
vous avez raison,
mais j'aime cette tradition comme vous. Hein.
Oui, mais vous savez, je suis d'accord avec vous profondément, mais avec ce que vous venez de dire. Mais pour pouvoir élaborer un serment comme celui que vous souhaitez, il faut du désir. Sans le désir, Spinoza, hein, sans le désir, il ne se passe rien. Et le désir, il faut l'alimenter par quelque chose. Il faut savoir que à l'intérieur de cette histoire, il y a les beautés de cette civilisation impure, de cette civilisation de bâtards, qui est la civilisation de l'Europe de l'Ouest.
Alors, donner du désir, eh bien, vous nous en donnez... Chacun d'entre vous, grâce à vos livres, grâce à vos citations, vous utilisez beaucoup des philosophes, et pas n'importe lesquels, Hegel, Kant, Rousseau, Spinoza, beaucoup. Moi, je vous propose d'écouter la voix de Vladimir Yankelevitch qui va parler de la conscience de soi et de savoir dire oui.
La surnature en nous, c'est la force de dire non, de répondre non à ce qui sollicite le oui, de dire non au oui et non point de dire oui à oui. En somme, si vous voulez, les choses tentantes, les objets du plaisir me sollicitent pour me faire dire oui. Elles me conseillent, elles me recommandent persuasivement de dire oui par la voix du flatteur, par exemple. Les flatteurs veulent me faire dire oui. Et le chant des sirènes, pas qui veut également faire dire oui à Ulysse, le parfum de l'apparence et le bel incarnat de l'apparence, tout conspire à nous faire dire oui, si bien que entre l'objet tentant, la voix des sirènes, les paroles de miel, du flatteur, le fruit d'or, et nous, il y a une zone intermédiaire, l'intermédiaire de la zone sensible, de la zone affective, qui est l'intermédiaire par lequel passe l'exhortation pressante adressée à ce pouvoir arbitraire et capricieux de la liberté dont j'ai dit qu'il était le pouvoir de dire non, pour que cette liberté acquiesce, pour qu'elle consente, pour qu'elle dise oui au oui.
Alors dire oui ou oui, c'est très compliqué. Vladimir Yankelevitch était un amoureux de la musique et d'ailleurs quand on l'entend c'est comme une musique. Mais vous, tous les deux, vous dites non, 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 Yves Michaud.
Non, 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 je ne suis pas d'accord.
Bon, alors,
je dis oui à quelque chose, je dis oui à ce dont parle Vladimir Yankelevitch là, en l'occurrence. Il avait un avantage sur Sartre, parce qu'ils étaient extrêmement rivaux, et ils se supportaient difficilement. L'avantage qu'il avait, c'est qu'il n'oubliait jamais que quelque chose est à aimer très fort et très prioritaire, une grâce, quelque chose. Sartre voulait plus entendre, enfin, il faisait semblant, bien que d'un milieu bourgeois et cultivé, il faisait semblant de mettre ça au second plan. Yankelevitch, jamais. Jamais, puisqu'il a parlé de quelque chose d'ineffable, qui est réel, qui existe. Et pourquoi il faut continuer à parler, à jouer, à créer. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Je dis oui à ça. Je dis oui avec ce qui va avec la liberté de création, la liberté d'expression, la liberté d'aller et de venir, la liberté. Et ça, ça a un prix dont parle Yves Michaud. Ça a un prix. Et ce prix, il est l'adhésion forte et loyale à un pacte. Et ce pacte, il faut savoir de quoi il est fait. Il est fait de pas beaucoup de contraintes, mais il est fait d'une espèce d'éthique indispensable pour que ça dure et que ça prospère. Normalement, on devrait être contagieux. La démocratie devrait être contagieuse. L'état de droit devrait être contagieux. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est au contraire contaminé par des choses qui sont totalement contraires à cet état de droit. C'est la contagion inverse qui se produit. On voit des femmes qui sont en position de soumission dans la rue avec des voiles, on voit des interdits religieux, on voit une religion, l'islam, qui se radicalise en France et qui impose des interdits, et non seulement des interdits, mais qui, en se radicalisant, provoque des actes de grande violence, qui sont des actes de guerre. Normalement, on devrait être contagieux. On devrait être fort. Ce qui nous menace n'est pas simplement ce qui est à nos frontières. Ce qui nous menace, c'est notre propre effondrement. Plus encore que ce qui nous menace à nos frontières.
Oui, mais Philippe Val, il y a un gros problème. Hein, c'est que la liberté, ce dont parlait finalement Yankelevitch, la liberté, c'est un risque. Et la liberté, c'est difficile à tenir. Hein. C'est-à-dire, dans mon précédent livre, j'avais mis un appendice, une compte-rendu d'une conversation avec un chauffeur de taxi fondamentaliste très intelligent qui m'avait dit, moi, ce qui est bien, c'est que je ne me pose plus aucune question, je ne suis libre de rien, toute ma vie est entièrement réglée. Et il y a un an et demi, je faisais une conférence en Tunisie qui a été interdite par les autorités fondamentalistes d'une ville, que je ne citerai pas, et le sujet de ma conférence était la peur de la liberté.
Oui.
Vous voyez ?
Mais vous dites oui à Bobby Lapointe, non, Yves Michaud ?
Ah ben moi j'ai choisi Bobby Lapointe parce que, comme on parlait d'identité, je voulais montrer à quel point une identité française très sympathique, que j'aime beaucoup, est quand même difficile à imposer à tout le monde.
Eh bien voilà, vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue. Ce soir, c'est avec Philippe Val et Yves Michaud. On écoute le choix musical de Yves Michaud. On la connaît par cœur, cette chanson.
Ce soir, au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire.
soir, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était toc, dit Igor, qui s'endort, ivre mort, au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, l'effet tarpaillard du bar, car encore Igor, il dort, mépris de son oreille, merveille, un réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, ta Katia t'a quitté. Tic-tac, tic-tac, ta Katia t'a quitté. Tic-tac, tic-tac, tes cocus qu'attends-tu? Cuite-toi tes cocus, ta Katia t'a quitté et quitté ton quartier. Ta Katia t'a quitté, ta tactique était toc, ta tactique était toc, ta Katia t'a quitté. Ôte ta toque et troc, ton tricot tout crotté et ta croûte au couteau. Contre tant attaqué, contre ta cocotée, quatre écoutes comptées, et quitte ton quartier. Ta Katia t'a quitté, ta Katia t'a quitté, ta Katia t'a quitté, ta Katia t'a quitté. Tout à côté des catins, des Katia qui n'est un coquère, coquin, et des diques coquettes, tout en tricotant, caqueté, t'es discuté, t'es critiqué, t'en compte toqué, qui comptait tantiquant, tout un tas de tickets, de quais, quand tout à coup, tic-tac, tic. Oh matin, quel réveil, matin, quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur. Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie.
Yves Michaud, merci pour ta Katia m'a quitté. Merci aussi pour les propos qui, hélas, sont teintés d'une actualité plus que tragique en ce moment. Voici ce que vous écrivez dans votre livre qui vient de sortir, Citoyenneté et loyauté. Une partie importante de la population d'origine immigrée maghrébine et subsaharienne n'est pas intégrée. Pas intégrée à quoi, au juste ? La première réponse est qu'elle n'est pas intégrée à la vie civique. Elle n'est pas intégrée non plus en termes scolaires. Elle n'est pas intégrée en termes de respect des lois. Qu'on en donne les raisons qu'on veut, c'est un fait que la majorité de la population incarcérée est d'origine immigrée, maghrébine ou subsaharienne.
Eh ben, je vais avoir une action de communauté française contre l'islamophobie.
Ben non, ouais, mais
je veux dire, non, mais je veux dire, le
certains
fait
articles disent
c'est
d'ailleurs
c'est
que
c'est un fait, c'est un fait statistique purement et simplement.
Non, je veux dire, il y a un article qui est paru dans Libération très récemment qui vous accuse d'avoir des positions proches du FN.
Oui, bah écoutez, si je disais que la neige est blanche et que Marine Le Pen dise que la neige est blanche, on dirait que je tiens un propos frontiste. Mais je veux dire, on a quand même le droit de dire un certain nombre de choses qui sont toutes bêtes. La plupart des décrocheurs, je connais bien la situation dans les lycées et collèges, parce que il se trouve que j'y travaille toujours, à titre bénévole, je fais des sessions dans les collèges de banlieue. Je veux dire, la plupart des gens à problème, des décrocheurs scolaires, par exemple, ils viennent de certaines zones de banlieue. Maintenant, c'est pas forcément leur faute, simplement, c'est qu'on a un système d'éducation qui dysfonctionne complètement. Bon, de la même manière, il y a d'autres passages dans mon livre sur l'échelle des peines. Hein, je dis quand même que c'est un peu bizarre qu'on soit dans une société où en prison, il y a des dealers, il y a des pointeurs et il y a des braqueurs. Comme par hasard, les gens qui font du trafic d'influence,
d'apprentissage du crime.
Comme par hasard, les gens qui font du trafic d'influence, qui font des gros détournements d'argent, rien du tout, 5 ans d'inéligibilité, 3 mois de prison avec sursis.
Ils sont pas tous d'origine maghrébine.
Et ils sont pas tous d'origine maghrébine. Je dis tout simplement aussi que cette situation dont je parle, elle reflète aussi le dysfonctionnement profond de notre système pénal. Moi, par exemple, je pense qu'en matière de fraude fiscale, les peines devraient être beaucoup plus lourde, hein, et pas forcément dans les carrés VIP, dans les cellules VIP des prisons. Ça aussi, c'est un indice, si vous voulez, de cette désagrégation de la communauté républicaine.
Philippe Val, je pense que vous partagez le point de vue d'Yves Michaud.
Oui, et puis, on vit dans une société...
Mais une chose est de stigmatiser une communauté et une autre, et d'essayer de comprendre pourquoi cette communauté n'arrive pas à être aussi bien intégrée qu'elle le devrait, qu'elle devrait l'être en termes de citoyenneté.
Moi,
je sais que tous les deux, vous allez me trouver de ringard, de bonne conscience et tout.
C'est comment on fait pour les réintégrer.
On a un point commun, bien qu'avec des expériences très différentes. Moi, j'ai connu le terrain, si on peut dire, pendant très longtemps, puisque j'ai parcouru la France et j'ai joué à peu près partout, dans des villages, des villes, des petits théâtres, des foyers de travailleurs, des opéras. J'ai joué partout. Et j'ai rencontré des gens absolument partout pendant de nombreuses années. Et j'ai vu vraiment s'intégrer, non seulement dans le public, mais dans les organisateurs de spectacles, des gens qui viennent de ces régions, c'est-à-dire des gens d'Afrique du Nord, beaucoup de gens d'Afrique. Donc, j'ai qui étaient directeurs ou qui étaient programmateurs de centres culturels. Et j'ai vu, pendant les années 80, le reflux de ça. À partir du moment où l'Ayatollah Khomeini a pris le pouvoir en Iran, il y a eu un islam qui s'est politisé et qui a interdit cette intégration. Et ça n'est pas la faute de la société démocratique et de l'état de droit. C'est vraiment une volonté politique qui s'est opérée et j'ai vu disparaître...
Volonté politique de la part de qui, selon vous ?
C'est une volonté politique en ce sens que l'islam s'est politisé et...
Une partie de l'islam.
Non, mais bien sûr. Mais
c'est l'islam sunnite que vous décrivez, Yves Michaud.
Toute une partie de l'islam s'est politisé et a interdit de collaborer à cette intégration.
Mais ne peut-on pas vous accuser de faire des amalgames tous les deux?
Il n'y a aucun amalgame, puisque tout le monde se réjouissait de la présence diverse de tous ces gens dans le monde culturel que j'ai connu vraiment bien pendant très longtemps. Je les ai vus disparaître.
Mais ce n'est pas parce qu'il y a des terroristes... certaines zones géographiques État-nation, que pour autant doit en rendre responsable et coupable toute une communauté.
C'est pas de ça que je parle. Je dis que si vous prenez le cas du décrochage des décrocheurs scolaires, c'est des choses bien concrètes qui sont en jeu. C'est la manière dont on lutte ou dont on tolère l'absentéisme. Une des plaies actuellement de l'enseignement. Du collège et du lycée, c'est l'absentéisme. Et l'absentéisme, je dirais, soit de décrochage, soit l'absentéisme, je dirais, de convenance personnelle, quand on a autre chose à faire ou que les parents décident
de
partir en vacances.
Vous pensez pas qu'il y a
de
l'absentéisme chez les blancs du
16e arrondissement ? Si, justement. Mais ce que je dis, c'est que le système scolaire français aujourd'hui ne traite pas la question de l'absentéisme qui pourrit littéralement tout le système d'enseignement. Il n'y a plus de programme quand il y a un absentéisme. Des gens qui viennent et puis ils ne sont pas au courant du film. Et ils ont manqué 3 semaines et puis ils reviennent, ils réapparaissent. Et je dis, si on veut intégrer les gens, il faut traiter très strictement la question de l'absentéisme. Et donc, ne pas le tolérer comme on le fait. On le tolère. Personnellement, je me prononce pour la suspension des allocations familiales. Moi, j'ai fait partie d'une génération où, quand on était malade, on envoyait le certificat médical parce qu'on avait un risque très réel de suspension des allocations familiales.
Enfin, il n'y a pas que l'absentéisme. L'histoire Théo nous a montré depuis une semaine que des violences policières s'adressent particulièrement à un certain type de population.
Mais bien évidemment, attendez. Un certain type de population, ça dépend aussi dans quel milieu. Je veux dire, si vous êtes à Saint-Denis, de toute manière, le contrôle, les contrôles d'identité...
Ça s'appelle
d'identité,
le contrôle aux faciès.
Non, mais les contrôles d'identité, j'étais à la gare de Saint-Denis il y a 15 jours, si vous êtes à la gare de Saint-Denis, les contrôles seront tous aux faciès. Excusez-moi, puisque de toute manière, il n'y a pas de blanc. Je veux dire, moi je dénonce pas du tout ça, je dis simplement que tout le monde doit respecter la règle républicaine, à commencer par les policiers.
Alors il faut redéfinir les règles de la République, les règles de fonctionnement de cette République.
Mais bien sûr, et être beaucoup plus strict, c'est ce que je dis.
Philippe Val.
Je pense que tout le monde sera d'accord avec ce que je vais dire, mais personnellement j'ai un mépris absolu pour la question de l'identité des origines. Ça m'est indifférent. Je pense que
l'identité, c'est la citoyenneté
je
qui,
pense
qui
que
vous
l'identité
intéresse.
Est une construction culturelle et que cette construction culturelle, comme son nom l'indique, elle demande un travail et que ce travail, s'il n'est pas fait courageusement, eh bien par les enseignants, par les parents. Évidemment, par les parents, parce que des fois, les enseignants, ils se retrouvent avec des gosses qui ont été tellement mal éduqués, qu'ils savent pas quoi en faire dans les classes. Donc, il y a une responsabilité générale.
Mais les parents,
générale.
Eux aussi, ont peut-être été mal instruits à l'intérieur de l'école de la République.
Oui, mais il y a eu un petit moment dans les années 70 et 80. Je pense que, une fois de plus, le retour de l'ayatollah en Iran a été une espèce de choc d'adrénaline politique. Et après, il y a une autre grande date, c'est la fatwa de Salman Rushdie, une autre grande date qui est 2001. Les attentats du 11 septembre et l'indifférence que l'on y a porté. En réalité, on n'a pas voulu analyser cette affaire, les attentats du 11 septembre. On a tout de suite dit, oh là là, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce qu'on croit. On a eu peur. Et la peur, elle va pas bien avec l'état de droit. Il faut beaucoup de courage pour défendre l'état
mais
de droit.
Mais ne vivons-nous pas, justement, en ce moment...
Il faut regarder le réel.
Un instant de peur, de début de panique.
Bien sûr.
Ben moi je vois. Oui, bien sûr. Mais en même temps, je pense qu'on est. Ce qu'il y a de bien dans les changements historiques, parce que je pense qu'on est à la veille de changements historiques importants. Je trouve qu'on est tout à peu près dans la situation de 1788, 1786, 1788. Situation
pré-révolutionnaire. Donc il va falloir qu'on fasse nos cahiers de doléances.
Mais dans un monde sans possibilité de révolution à la manière de 1789. Donc du coup, les gens font comment ? Ils font de la révolution par les urnes. C'est bien ce qu'on voit partout se produire. Et il crée, je dirais, un désordre maximum avec ces révolutions et ces incohérences de vote. Hein. Je veux dire, on est effectivement dans une crise. Mais une crise qui est intéressante dans une crise, c'est que ça permet de reconstruire. Moi, je pense, si vous voulez... Alors, je suis assez d'accord avec Val sur l'influence des facteurs extérieurs. Hein. C'est vrai que... Il faut aussi être réaliste en politique internationale. Les puissances extérieures ont toujours agi dans les politiques intérieures. On n'a pas assez remarqué que l'attentat de Meira, hein, en 2007, il était destiné à faire pression sur l'élection présidentielle. Simplement, comme on n'était pas prêt psychologiquement, on a parlé de loup solitaire, etc. Mais c'était à peu près la même chose que 2004 à Atocha, à Madrid. C'était la manière de voter des terroristes. Et il se pourrait qu'on ait la même chose, d'ailleurs.
Donc
dans
vous
les
pensez
mois,
qu'il
dans,
y a une infiltration terroriste et une déstabilisation de notre démocratie.
Oui, mais ça, je dirais que d'une certaine manière, c'est
elle
normal.
Elle ne vient pas de l'intérieur, cette
mais
déstabilisation,
en revenant, pour si, vous. Si, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est plutôt les facteurs sur lesquels nous pouvons agir, ils sont de l'intérieur. Et je pense que notamment, la faillite principale en France, c'est la faillite du système éducatif. Je veux dire, parce que tout ça naît sur un terreau d'ignorance dont on n'a pas d'idée. Je veux dire, quand on essaye de parler de religion à des lycéens...
L'éducation nationale est bien une des grandes institutions qui continuent à fonctionner avec un corps enseignant exceptionnel.
Eh bien non, moi ce que je peux vous dire, c'est que l'éducation nationale, les moyens, ils y sont. La qualité des profs, ils y sont. L'organisation, le concept général, les programmes et tout ça, ça n'y est pas. Hein. Et on dépense beaucoup d'argent et on a beaucoup de profs excellents et pourquoi ça donne d'aussi piètres résultats? Parce qu'il y a cette énorme machine, je ne veux pas recommencer sur le mammouth, cette bureaucratie délirante, cette structure pyramidale. Et c'est là que ça... Parce que vous essayez d'aller parler de religion, un collégien encore on peut, parce qu'ils ne sont pas encore trop déformés, mais un lycéen... Essayez de lui parler de religion. Essayez de lui dire, on va parler de la révélation aujourd'hui.
Non,
il va vous dire, tu discutes pas, le prophète il a dit...
Voilà. Et
Philippe Val, partagez le pessimisme d'Yves Michaud ?
Enfin, c'est pas pessimiste,
non,
c'est une réalité.
Hein.
Regardez, Darwin, c'est difficile d'en parler. Or, nous sommes le produit de cette culture Darwin.
SVT, les profs de SVT
Darwin,
disent qu'on ne peut pas enseigner Darwin.
C'était très important, Darwin.
Il y a de plus en plus de contestations de ce que nous a apporté Darwin.
C'est impossible à aborder la plupart du temps.
S'il n'y a pas Darwin, il n'y a pas Freud. Et s'il n'y a pas Freud, il n'y a pas l'égalité entre hommes et femmes. Déjà, c'est des acquis de citoyenneté décisifs, c'est nos socles. Et si on ne peut pas enseigner Darwin, on s'effondre. Voilà.
Alors, que proposez-vous, messieurs ? Vous, Yves Michaud, dans votre avant-dernier ouvrage, donc qui s'intitule « Contre la bienveillance », au moins le titre est clair.
Okay, oui.
Et dans celui-ci, « Citoyenneté et loyauté », vous êtes plutôt pour des mesures assez autoritaires.
C'est-à-dire une éducation civique vraiment bien structurée, très simple, mais continue depuis l'école primaire jusqu'à 16 ans. Hein, pourquoi 16 ans ? Parce que ensuite ça débouche sur un service civique de 3 mois dans lequel on vérifie la connaissance des principes de la République, tout simplement.
Vous avez vu que François Fillon a proposé que la majorité soit à 16 ans aujourd'hui.
Oui, mais attendez, c'est dans mon bouquin aussi. À 16 ans, on fait son service civique.
Donc c'est pas FN, c'est Fillon.
On prête serment à la République, mais c'est qui veut les prendre, ces idées ? Moi, je m'en fiche. Hein, je veux dire, moi, je les donne et puis les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Hein, je pense pas que ce soit des idées pandas. Après, à 16 ans, on prête serment, exactement comme pour les cérémonies de naturalisation, on prête solennellement serment
comme aux États-Unis.
À la République, comme aux États-Unis, et effectivement,
c'est très Ségolène Royal là, tout ce que
mais
vous nous proposez.
Mais tout à fait. Mais j'ai travaillé pour Ségolène Royal j'ai travaillé pour Ségolène Royal en 2007 aussi. Donc vous voyez que je suis assez œcuménique. Mais et à ce moment-là, on devient citoyen si on a le droit de vote. Mais il y a aussi la majorité pénale.
Hein. Moi, je voudrais quand même dire une chose, c'est que on ne peut pas obtenir quoi que ce soit. C'est peut-être un peu cucu ce que je vais vous dire, mais au fond, je pense
pas.
Mais s'il n'y a pas l'effort, certes, l'effort, oui, mais le plaisir. Il faut savoir que ce travail d'intériorité nécessaire pour être un citoyen, pour être, ce travail
ça
se mérite,
donc, la citoyenneté.
C'est un plaisir, c'est un bonheur, c'est des difficultés, mais c'est un plaisir. Connaître, savoir qu'on est partie prenante d'une culture qui est composée de choses qui donnent presque des extases, c'est quand même ça. Il y a un bonheur dans tout ça.
Donc vous dites qu'on est dans une société où la citoyenneté est beaucoup trop donnée, délivrée comme une sorte de chose gratuite.
Je pense que les bonheurs
n'exigent aucun devoir.
Les bonheurs que réserve l'état de droit, ce bonheur d'avoir accès à des choses formidables, ineffables, eh bien,
ce bonheur, il est très dangereux en ce moment, dangereusement entamé.
S'il est absent d'une vie, on appelle ça une vie ratée. Et les vies ratées, si vous voulez, les peuples qui ressentent quelque chose comme une vie ratée, c'est des peuples qui sombrent dans la barbarie. Il n'y a pas de civilisation et d'état de droit sans des promesses de bonheur tenues. Et ces promesses de bonheur tenues, elles sont dans ce que créent ces états de droit, que crée cette culture. Cette culture, elle crée des choses magnifiques auxquelles il faut donner accès. Il faut montrer les petits chemins, il faut les emmener. Michaud avait fait l'Université de tous les savoirs, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. On en parlait beaucoup dans Charlie Hebdo à l'époque, mais il faut montrer les petits chemins où on va boire quelque chose qui nous enivre. Sinon, ça ne marchera pas, la citoyenneté.
Alors, tous les deux, j'ai du mal avec ces deux messieurs. Hein.
Pardon. Il y a aussi un tabou, c'est cette histoire judéo-grecque. Il y a eu un antisémitisme séculaire. Et il faut peut-être revenir là-dessus, dans le christianisme d'une part, mais ensuite dans les nationalismes de la fin du 19e, et puis les théories raciales de Gobineau qui ont inspiré Hitler et tout ça. Bon, cette mutation, il faut sortir de là. Il faut reprendre cet héritage judéo-grec qui est quand même le petit chemin le plus facile, le plus ouvert et le plus vrai.
Alors justement, tous les deux, Philippe Val, aussi bien vous, à la fin, dans votre dernier chapitre qui s'intitule « L'avenir de l'impureté », que vous, Yves Michaud, dans votre dernier ouvrage et aussi dans l'avant-dernier, vous stigmatisez tout type de populisme et vous tentez, chacun à votre manière, de rétablir les règles de l'état de droit. Comment faire pour les rétablir ? Sommes-nous encore dans un état de droit aujourd'hui ?
Mais moi, je crois qu'il s'agit de faire comprendre aux gens qu'ils ont la chance, c'est ce que disait Val, ils ont la chance de bénéficier de la République, de ses bienfaits, de la liberté. Liberté de penser, hein, et pas seulement d'aller et venir, mais liberté de penser, ça c'est fondamental. Liberté de choix de religion et liberté de ne pas avoir de religion. Qu'ils ont la chance aussi d'être dans une république où ils ont un principe d'égalité. Je discute pas sur la manière dont est organisée l'égalité, j'en ai parlé dans plusieurs livres. Mais il y a un principe d'égalité, et à mon avis, il devrait d'ailleurs surtout se matérialiser par l'égalité des chances, et c'est quelque chose qu'on sait faire. Et puis qu'il y a un principe aussi de solidarité, c'est-à-dire qu'on s'entraide, et c'est ce qu'on appelle les transferts sociaux, hein, je veux dire, c'est quand même pas rien. À partir de là, je veux dire...
Peut pas dire qu'on y arrive forcément bien en ce moment.
On n'y arrive pas forcément bien, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a eu tellement de détournements. Moi, je ne pensais pas, en écrivant mon premier chapitre de Citoyenneté et Loyauté, que ça s'appliquerait à l'affaire Fillon. Hein. Mais je veux dire, il y a tellement de manières dont les gens se sont arrangés. Les gens se sont arrangés. C'est pour ça que sur l'état de droit, je serais assez réticent, parce que le principe de l'état de droit, je suis pour, mais je considère que malheureusement, au fil du temps, l'état de droit a été très largement défiguré. Hein. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je lisais dans le Canard enchaîné que les députés ont introduit un amendement subreptice pour dire que les abus de biens sociaux, la prescription, elle commencerait à la date où c'est commis, pas la date où c'est découvert, alors qu'avant, et que ça durerait seulement 12 ans. On double l'idée de prescription pour tout le monde, mais on s'arrange entre délinquants, hein, parce qu'il faut voir que le délit principal des politiciens, c'est le trafic d'influence, hein, et l'abus de biens sociaux. On s'arrange entre soi, et c'est en ce sens que notre état de droit, il a besoin d'un sérieux toilettage.
Alors, il vous reste une minute pour nous dire, et dire surtout aux auditeurs, quels sont vos espoirs, Philippe Val?
Bah, il faut rendre les gens amoureux de ça, il faut rendre les gens amoureux de l'état de droit. D'ailleurs, je pense qu'on vit dans des états de droit. Les États-Unis, aujourd'hui, avec Trump, vivent encore dans l'état de droit. Un état de droit qui est incarné de façon tragique. Et les gens, ce n'est pas l'état de droit qui est en cause, contrairement à ce qu'on entend, dans ce qu'on a entendu dans les manifestations naïves chez les zadistes ou dans les nuits debout. Ce n'est pas l'état de droit qui est en cause, c'est ce qu'on en fait. Mais l'état de droit, il faudrait apprendre ce que c'est. Parce que dans l'histoire, dans l'éducation civique dont parle Yves Michaud, il faut mettre l'histoire de nos libertés. Il faut comprendre comment elles se sont acquises et à quel prix. Qui est mort? Qui a été torturé? Qui a vécu pour ces libertés? C'est une histoire romanesque et très belle. Et il faut apprendre l'histoire de nos libertés. C'est très important.
Je suis très pessimiste à très court terme. Je pense qu'on va devant de convulsions extrêmement importantes, de grandes surprises, hein, et rien ne se passera comme prévu. Mais en même temps, je pense que c'est comme ça que se font les recommencements. Hein. J'ai jamais été maoïste, jamais, mais il y avait une phrase du président Mao qui me plaisait bien, c'est « le nouveau ne naît pas de l'ancien, il naît de la destruction de l'ancien ».
Eh bien, merci messieurs. Et nous allons nous quitter avec ce qui n'est pas un choix musical de Philippe Val, mais ce qui est notre choix musical pour Philippe Val, car nous n'avons pas oublié, Philippe Val, quand vous étiez à France Inter, vous n'avez pas oublié non plus votre amour de la musique, votre amour du jazz. Vous alliez tous les ans au festival de jazz in Marciac et vous aimez ce que nous allons entendre, c'est-à-dire le fils, ah oui. Chucho, le père,
magnifique.
Bebo. C'est de la part de Véronique. Elle s'en souvient.
Sublime.
Voilà, on l'écoute.
Sublime pianiste.
De Philippe Val, Cacher cette identité que je ne saurais voir vient de paraître aux éditions Grasset et d'Yves Michaud, Citoyenneté et Loyauté, aux éditions Kéro. Merci à toute l'équipe de L'Heure Bleue, merci à Thierry Dupin, merci à Véronique Barnet qui a réalisé cette émission, préparée par Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Arthur Daniel, avec à la technique ce soir Nicolas Slimani.